France Culture. Le Père Goriot, d'Honoré de Balzac. Feuilleton en 10 épisodes. Adaptation et réalisation, Cédric Ossir. 6e épisode. Sur les conseils de Madame de Beauséant, Rastignac se rapproche de Delphine de Nucingen, la deuxième fille du Père Goriot, dans l'espoir qu'elle devienne sa maîtresse. Il confie ses aventures mondaines au vieillard, qui, trop heureux d'entendre parler de ses filles, intercède en sa faveur auprès de Delphine.
La curiosité mena Rastignac chez Madame de Nucingen, tandis que, si cette femme l'eût dédaigné, peut-être y aurait-il été conduit par la passion. Néanmoins, il n'attendit pas le lendemain et l'heure de partir sans une sorte d'impatience. Le désir ne naît pas moins de la difficulté que de la facilité des triomphes. En faisant sa toilette, Eugène savoura tous ces petits bonheurs dont n'osent parler les jeunes gens, de peur de se faire moquer d'eux, mais qui chatouillent l'amour-propre. Il arrangeait ses cheveux en pensant que le regard d'une jolie femme se coulerait sous leurs boucles noires. Il regarda complaisamment sa taille mince en déplissant son habit.
Il est certain qu'on en peut trouver depuis mal tourné.
Puis il descendit au moment où tous les habitués de la pension étaient à table et reçut gaiement le hourra de sottise que sa tenue élégante excita. Un trait des mœurs particulières aux pensions bourgeoises est l'ébahissement qui cause une toilette soignée.
Tournure de duc et père.
Monsieur va en conquête.
Voilà le cabriolet.
Où dîne-t-il donc?
Chez madame la baronne de Nucingen.
La fille de monsieur Goriot.
À ce nom, les regards se portèrent sur l'ancien vermicellier qui contemplait Eugène avec une sorte d'envie. Rastignac arriva rue Saint-Lazare dans une de ces maisons légères à portique mesquin qui constitue le joli à Paris. Une véritable maison de banquier pleine de recherches coûteuses, de stucs, de paliers, d'escaliers en mosaïque de marbre. Il trouva Madame de Nucingen dans un petit salon à peinture italienne dont le décor ressemblait à celui des cafés. La baronne était triste. Les efforts qu'elle fit pour cacher son chagrin intéressèrent d'autant plus vivement Eugène qu'il n'y avait rien de joué. Il croyait rendre une femme joyeuse par sa présence et la trouvait au désespoir. Ce désappointement piqua son amour-propre.
« Mais qu'avez-vous ? » ?»«
Ne vous le disais-je pas avant-hier ? Je ne suis point heureuse. Les chaînes d'or sont les plus pesantes. »
Quand une femme dit à un jeune homme qu'elle est malheureuse, si ce jeune homme est spirituel, bien mis, s'il a 1500 francs d'oisiveté dans sa poche, il doit penser ce que se disait Eugène et devient fat.
« Écoutez, si vous avez des chagrins, il faut me les confier. Je peux vous prouver que je vous aime pour vous. »
Eh bien, je vais vous mettre à l'instant même à l'épreuve. Allons. Venez.
Eugène crut rêver en se trouvant dans le coupé de Monsieur de Nucingen à côté de cette femme.
Au Palais Royal, près du Théâtre Français.
Allez.
En route, elle parut agitée et refusa de répondre aux 1000 interrogations d'Eugène qui ne savait que penser de cette résistance muette.
Êtes-vous disposé à m'obéir?
Aveuglément.
Êtes-vous allé quelquefois au jeu?
Jamais.
Ah, je respire. Voici ma bourse. Prenez donc. Il y a 100 francs. C'est tout ce que possède cette femme si heureuse. Montez dans une maison de jeu. Risquez les 100 francs à un jeu qu'on nomme la roulette et perdez tout ou rapportez-moi 6000 francs. Je vous dirai mes chagrins à votre retour.
Elle se compromet avec moi. Elle n'aura rien à me refuser.
Eugène prit la jolie bourse, courut au numéro 9 après s'être fait indiquer par un marchand d'habits la plus prochaine maison de jeu. Il y monta et demanda où était la roulette. À l'étonnement des habitués, le garçon de salle le mena devant une longue table. Eugène suivi de tous les spectateurs, demanda sans vergogne où il fallait mettre l'enjeu.
Si vous placez un louis sur un seul de ces 36 numéros et qu'ils sortent, vous aurez 36 louis.
Rouge.
Eugène jeta les 100 francs sur le chiffre de son âge, 21. Un cri d'étonnement partit sans qu'il eût le temps de se reconnaître. Il avait gagné sans le savoir.
Retirez donc votre argent, l'on ne gagne pas deux fois dans ce système-là.
Eugène prit un râteau que lui tendit le vieux monsieur, il tira à lui les 3600 francs et, toujours sans rien savoir du jeu, les plaça sur le rouge. La galerie le regarda avec envie. La roue tourna, il gagna encore. Et le banquier lui jeta encore 3600 francs.
Vous avez 7200 francs à vous. Si vous m'en croyez, vous vous en irez. Le rouge a passé 8 fois. Si vous êtes charitable, vous reconnaîtrez ce bon avis en soulageant la misère d'un ancien préfet de Napoléon qui se trouve dans le dernier besoin.
Rastignac, étourdi, se laissa prendre 10 louis par l'homme à cheveux blancs et descendit avec les 7000 francs, ne comprenant encore rien au jeu, mais stupéfié de son bonheur.
Vous m'avez sauvé. Eh bien, mon ami, sachez que M. de Nucingen ne me laisse pas disposer d'un sou. Il me réduit à une misère secrète par calcul. Je suis trop fière pour l'implorer. Le mariage est pour moi la plus horrible des déceptions. Je ne puis vous en parler. Qu'il vous suffise de savoir que je me jetterais par la fenêtre s'il fallait vivre avec Nucingen autrement qu'en ayant chacun notre appartement séparé. Depuis, j'ai voulu répondre à l'amour propre de quelqu'un que vous connaissez. Il m'a quittée indignement. On ne devrait jamais abandonner une femme à laquelle on a jeté, dans un jour de détresse, un tas d'or. On doit l'aimer. Toujours. L'argent ne devient quelque chose qu'au moment où le sentiment n'est plus. Qui de nous prévoit une séparation en se croyant bien aimé? Vous ne savez pas ce que j'ai souffert aujourd'hui, lorsque Nucingen a refusé de me donner 6000 francs. Lui qui les donne tous les mois à sa maîtresse, une fille de l'opéra. Je voulais me tuer. Vous m'avez sauvée de la honte et de la mort. Ce soir, monsieur de Marsay n'aura pas le droit de me regarder comme une femme qu'il a payée.
Elle se mit le visage dans ses mains pour ne pas montrer ses pleurs à Eugène, qui lui dégagea la figure pour la contempler. Elle était sublime ainsi.
Grâce à vous, me voilà redevenue libre et joyeuse. Gardez ceci. En conscience, je vous dois 1000 écus, car je me suis considérée comme étant de moitié avec vous.
Eugène se défendit comme une vierge, mais la baronne lui ayant dit
« Je vous regarde comme mon ennemi si vous n'êtes pas mon complice. »
Il prit l'argent.
Ce sera une mise de fonds, en cas de malheur.
Quand Madame de Nucingen et Rastignac entrèrent dans leur loge aux Italiens, elle eut un air de contentement qui la rendait si belle que chacun se permit de ces petites calomnies contre lesquelles les femmes sont sans défense et qui font souvent croire à des désordres inventés à plaisir. Quand on connaît Paris, on ne croit à rien de ce qui s'y dit et l'on ne dit rien de ce qui s'y fait. Eugène prit la main de la baronne et tous deux se parlèrent par des pressions plus ou moins vives en se communiquant les sensations que leur donnait la musique. Pour eux, cette soirée fut enivrante. Madame de Nucingen voulut reconduire Eugène jusqu'au Pont-Neuf en lui disputant, pendant toute la route, un des baisers qu'elle lui avait si chaleureusement prodigué au Palais-Royal.
Tantôt, c'était de la reconnaissance pour un dévouement inespéré. Maintenant, ce serait une promesse.
Et vous ne voulez m'en faire aucune? Ingrate.
En faisant un de ces gestes d'impatience qui ravissent un amant, elle lui donna sa main à baiser, qu'il prit avec une mauvaise grâce dont elle fut enchantée.
À lundi, au bal.
En s'en allant à pied par un beau clair de lune, Eugène tomba dans de sérieuses réflexions. Ce fut alors qu'il éprouva la réalité des pensées indécises auxquelles il s'était livré l'avant-veille. L'insuccès nous accuse toujours la puissance de nos prétentions. Plus Eugène jouissait de la vie parisienne, moins il voulait demeurer obscur et pauvre. Il chiffonnait son billet de 1 000 francs dans sa poche en se faisant 1 000 raisonnements captieux pour se l'approprier. Enfin, il arriva rue Neuve-Sainte-Geneviève. Le père Goriot avait laissé sa porte ouverte et sa chandelle allumée afin que l'étudiant n'oubliât pas de lui raconter sa fille, suivant son expression. Eugène ne lui cacha rien.
Mon Dieu! Ah, pauvre petite, que ne venait-elle ici? J'aurais vendu mes rentes, nous aurions pris sur le capital et avec le reste, je me serais fait du viager. Ah, voilà ce que c'est que des gendres. Oh, si je les tenais, je leur serrerais le cou. Ah, oh mon Dieu. Elle a pleuré.
La tête sur mon gilet.
Oh, donnez-le-moi. Je vous en achèterai un autre. Laissez-le-moi. Elle doit, d'après son contrat, jouir de tous ses biens. Ah, je vais aller trouver Derville, un avoué, dès demain. Je vais faire exiger le placement de sa fortune. Je connais les lois, moi. Je suis un vieux loup. Je vais retrouver mes dents.
Tenez, père, voici 1 000 francs qu'elle a voulu me donner sur notre gain. Gardez-les, lui, dans le gilet.
Goriot regarda Eugène, lui tendit la main pour prendre la sienne, sur laquelle il laissa tomber une larme.
Vous réussirez dans la vie. Dieu est juste, voyez-vous. Je me connais en probité, moi. Et je puis vous assurer qu'il y a bien peu d'hommes qui vous ressemblent. Vous voulez donc être aussi mon cher enfant? Allez, dormez. Vous pouvez dormir. Vous n'êtes pas encore père.
Par ma foi, je crois que je serai honnête homme toute ma vie. Il y a du plaisir à suivre les inspirations de sa conscience.
Lundi, à l'heure du bal, Rastignac alla chez Madame de Beauséant, qui l'emmena pour le présenter à la duchesse de Carigliano. Il reçut le plus gracieux accueil de la maréchale, chez laquelle il retrouva Madame de Nucingen. Pendant cette fête, l'étudiant mesura tout à coup la portée de sa position et comprit qu'il avait un état dans le monde en étant cousin avoué de Madame de Beauséant. La conquête de la baronne de Nucingen, qu'on lui donnait déjà, le mettait si bien en relief que tous les jeunes gens lui jetaient des regards d'envie. En surprenant quelques-uns, il goûta les premiers plaisirs de la fatuité. Delphine, craignant de le perdre, lui promit de ne pas lui refuser le soir le baiser qu'elle s'était tant défendue d'accorder l'avant-veille. À ce bal, Rastignac se vit lancé dans le plus grand et le plus beau monde de Paris. Cette soirée eut donc pour lui les charmes d'un brillant début, et il devait s'en souvenir jusque dans ses vieux jours, comme une jeune fille se souvient du bal où elle a eu des triomphes. Le lendemain, quand, en déjeunant, il raconta ses succès au père Goriot devant les pensionnaires, Vautrin se prit à sourire d'une façon diabolique.
Et vous croyez qu'un jeune homme à la mode peut demeurer rue Neuve-Sainte-Geneviève, dans la maison Vauquer? Elle est fière d'être le manoir momentané d'un Rastignac, mais enfin, elle est rue Neuve-Sainte-Geneviève et ignore le luxe parce qu'elle est purement patriarchalorama. Mon jeune ami, si vous voulez faire figure à Paris, il vous faut 3 chevaux et un tilbury pour le matin, un coupé pour le soir. Et les jeunes gens à la mode ne peuvent se dispenser d'être très forts sur l'article du linge. L'amour et l'église veulent de belles nappes sur leurs hôtels. J'ai mené cette vie-là. J'en connais les débours. Hein? Ou déportez-vous dans une vertueuse mansarde et mariez-vous-y avec le travail. Ou prenez une autre voie.
Et Vautrin cligna de l'œil en guignant Mademoiselle Taillefer de manière à rappeler et résumer dans ce regard les raisonnements séducteurs qu'il avait semés au cœur de l'étudiant pour le corrompre. Plusieurs jours se passèrent pendant lesquels Rastignac mena la vie la plus dissipée. Il dînait presque tous les jours avec Madame de Nucingen, qui l'accompagnait dans le monde. Il jouait gros jeux, perdait ou gagnait beaucoup et finit par s'habituer à la vie exorbitante des jeunes gens de Paris. Sur ses premiers gains, il avait renvoyé 1500 francs à sa mère et à ses sœurs en accompagnant sa restitution de jolis présents. Quoiqu'il eût annoncé vouloir quitter la maison Vauquer, il y était encore dans les derniers jours du mois de janvier et ne savait comment en sortir. Les jeunes gens sont soumis presque tous à une loi en apparence inexplicable, mais dont la raison vient de leur jeunesse même et de l'espèce de furie avec laquelle ils se ruent au plaisir. Riches ou pauvres, ils n'ont jamais d'argent pour les nécessités de la vie, tandis qu'ils en trouvent toujours pour leurs caprices. Rastignac en était là. Vers cette époque, il avait perdu son argent et s'était endetté. L'étudiant commençait à comprendre qu'il lui serait impossible de continuer cette existence sans avoir des ressources fixes. Mais tout en gémissant sous les piquantes atteintes de sa situation précaire, il se sentait incapable de renoncer aux jouissances excessives de cette vie et voulait continuer à tout prix.
Nous avons donc tué le mandarin ?
Pas encore, mais il râle.
L'étudiant en médecine prit ce mot pour une plaisanterie, et ce n'en était pas une. Eugène, qui, pour la première fois depuis longtemps, avait dîné à la pension, s'était montré pensif pendant le repas. Au lieu de sortir au dessert, il resta dans la salle à manger, assis auprès de Mademoiselle Taillefer, à laquelle il jeta de temps en temps des regards expressifs. Frappé de la préoccupation à laquelle Eugène était en proie, Vautrin resta dans la salle à manger et se tint constamment de manière à n'être pas vu d'Eugène qui pût le croire parti. Il avait lu dans l'âme de l'étudiant et pressentait un symptôme décisif.
Auriez-vous des chagrins, monsieur Eugène ?
Quel homme n'a pas ses chagrins ? Vous, mademoiselle, vous vous croyez sûre de votre cœur aujourd'hui. Mais répondriez-vous de ne jamais changer ?
Un sourire fit si bien reluire la figure de la pauvre fille qu'Eugène fut effrayé d'avoir provoqué une aussi vive explosion de sentiments.
Quoi ? Si demain, une immense fortune vous tombait des nues, vous aimeriez encore le jeune homme pauvre qui vous aurait plu durant vos jours de détresse ?
Elle fit un joli signe de tête.
Un jeune homme bien malheureux ?
Nouveau signe.
Mais quelle bêtise dites-vous là ?
Il y aurait donc alors promesse de mariage entre monsieur le chevalier Eugène de Rastignac et mademoiselle Victorine Taillefer.
Oh, monsieur Vautrin, vous m'avez fait peur.
Je pourrais plus mal choisir.
Pas de mauvaise plaisanterie, messieurs. Ma fille, remontons chez nous.
Madame Vauquer suivit ses deux pensionnaires afin d'économiser sa chandelle et son feu en passant la soirée chez elle.
Je savais bien que vous y viendriez. Mais ne vous décidez pas dans ce moment, vous n'êtes pas dans votre assiette ordinaire. Je ne veux pas que ce soit le désespoir, mais la raison qui vous détermine à venir à moi. Tenez. Les voulez-vous ?
Ce démon prit dans sa poche un portefeuille et en tira 3 billets de banque. Eugène était dans la plus cruelle des situations. Il devait au marquis d'Ajouda et au comte de Trailles 100 louis, perdu sur parole. Il ne les avait pas et n'osait aller passer la soirée chez Madame de Restaud où il était attendu.
Monsieur, après ce que vous m'avez confié, vous devez comprendre qu'il m'est impossible de vous avoir des obligations.
Eh bien, vous m'auriez fait de la peine de parler autrement. Vous êtes un beau jeune homme, délicat, fier comme un lion et doux comme une jeune fille. Vous seriez une belle proie pour le diable. Encore 2 ou 3 réflexions de haute politique et vous verrez le monde comme il est. En y jouant quelques petites scènes de vertu, l'homme supérieur y satisfait toutes ses fantaisies aux grands applaudissements des niais du parterre. Ah, si vous vouliez devenir mon élève, je vous ferais arriver à tout. Prenez ces chiffons et mettez-moi là-dessus, là, accepté pour la somme de 3500 francs payables en un an. Et daté. L'intérêt est assez fort pour vous ôter tout scrupule. Vous pouvez vous regarder comme quitte de toute reconnaissance. Je vous permets de me mépriser encore aujourd'hui. Sûr que plus tard, vous m'aimerez. Vous trouverez en moi de ces vastes sentiments concentrés que les niais appellent des vices. Mais vous ne me trouverez jamais ni lâche ni ingrat.
Quel homme êtes-vous donc? Vous avez été créé pour me tourmenter.
Mais non. Je suis un bonhomme qui veut se crotter pour que vous soyez à l'abri de la boue pour le reste de vos jours. Votre premier effroi se passera comme celui du conscrit sur le champ de bataille. Et vous vous accoutumerez à l'idée de considérer les hommes comme des soldats, décidés à périr pour le service de ceux qui se sacrent rois eux-mêmes. Les temps sont bien changés. Autrefois, on disait à un brave, « Voilà, 100 écus, tue-moi, monsieur un tel. » Et l'on soupait tranquillement, après avoir mis un homme à l'ombre pour un oui, pour un non. Aujourd'hui, je vous propose de vous donner une belle fortune contre un signe de tête qui ne vous compromet en rien, et vous hésitez. Le siècle est mou.
Eugène signa la traite et l'échangea contre les billets de banque.
Eh bien, voyons, parlons raison. Je veux partir d'ici à quelques mois pour l'Amérique, aller planter mon tabac. Si je deviens riche, je vous aiderai. Je vous léguerai ma fortune. Est-ce être l'ami d'un homme? Mais je vous aime, moi. J'ai la passion de me dévouer pour un autre. Je l'ai déjà fait. Voyez-vous, mon petit, je vis dans une sphère plus élevée que celle des autres hommes. Je considère les actions comme des moyens et ne vois que le but. Qu'est-ce qu'un homme pour moi? Ça. Un homme est tout ou rien. Il est moins que rien quand il se nomme Poiré. On peut l'écraser comme une punaise. Il est plat et il pue. Mais un homme est un dieu quand il vous ressemble. Ce n'est plus une machine couverte de peau, mais un théâtre où s'émeuvent les plus beaux sentiments. Et je ne vis que par les sentiments. Voyez le père Goriot, ses deux filles sont pour lui tout l'univers, elles sont le fil avec lequel il se dirige dans la création. Eh bien, pour moi, qui ai bien creusé la vie, il n'existe qu'un seul sentiment réel. Une amitié d'homme à homme. Vous êtes un homme supérieur. On peut tout vous dire. Vous savez tout comprendre. Vous ne patouillerez pas longtemps dans les marécages où vivent les crapoussins qui nous entourent ici. Eh bien, voilà qui est dit. Vous épouserez. Poussons chacun nos pointes. La mienne est en fer et ne mollit jamais.
Vautrin sortit sans vouloir entendre la réponse négative de l'étudiant afin de le mettre à son aise. Il semblait connaître le secret de ces petites résistances, de ces combats dont les hommes se parent devant eux-mêmes et qu'ils leur servent à se justifier leurs actions blâmables.
Qu'il fasse comme il voudra. Je n'épouserai certes pas Mademoiselle Taillefer.
Après avoir subi le malaise d'une fièvre intérieure que lui causa l'idée d'un pacte fait avec cet homme dont il avait horreur, mais qui grandissait à ses yeux par le cynisme même de ses idées et par l'audace avec laquelle il étreignait la société, Rastignac s'habilla, demanda une voiture et vint chez Madame de Restaud. Depuis quelques jours, cette femme avait redoublé de soins pour un jeune homme dont chaque pas était un progrès au cœur du grand monde et dont l'influence paraissait devoir être un jour redoutable. Il paya messieurs de Trailles et d'Ajuda, joua au whist une partie de la nuit et regagna ce qu'il avait perdu. Superstitieux, comme la plupart des hommes dont le chemin est à faire, il voulut voir dans son bonheur une récompense du ciel pour sa persévérance à rester dans le bon chemin. Le lendemain matin, il s'empressa de demander à Vautrin s'il avait encore sa lettre de change. Sur une réponse affirmative, il lui rendit les 3 000 francs en manifestant un plaisir assez naturel.
Tout va bien.
Mais je ne suis pas votre complice.
Je sais. Je sais. Vous faites encore des enfantillages? Vous vous arrêtez aux bagatelles de la porte?
Le père Goriot, d'Honoré de Balzac. Adaptation, Cédric Ossir. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. 6e épisode. Avec Michel Vuillermoz. Lionel Lingelser, Christine Murillo, Clément Bresson, Marie Crémer, Jean-Claude Frissung, Arnaud Churin, Françoise Gaziot, Laurence Roy, Jean-Luc Porraz, Anouche Paré, Marina Cap, Léo Dussolier, Christian Driot et Cédric Bouvier. Bruitage, Elodie Fiat. Musique originale, Manuel Pesquine. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur, Victoria Asper. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Cédric Ossire.